Une forêt de lances, de piques et d'épées se hérissait à sa base. Elle sauta contre les murailles, les échelles s'y accrochèrent, et dans la baie des créneaux, des têtes de barbares parurent. Des poutres soutenues par de longues files d'hommes battaient les portes, et aux endroits où la terrasse manquait, les mercenaires, pour démolir le mur, arrivaient en cohorte serrée, la première ligne se tenant accroupie, la seconde pliant le jarret, et les autres successivement se dressaient jusqu'au dernier qui restait tout droit, tandis qu'ailleurs, pour monter dessus, les plus hauts s'avançaient en tête, les plus bas à la queue, et tous, du bras gauche, appuyaient sur leurs casques, leurs boucliers, en les réunissant par le bord si étroitement qu'on aurait dit un assemblage de grandes tortues. Les projectiles glissaient sur ces masses obliques. Les Carthaginois jetaient des meules de moulins, des pilons, des cuves, des tonneaux, des lits, tout ce qui pouvait faire un poids et assommer. Quelques-uns guettaient dans les embrasures avec un filet de pêcheurs, et quand arrivait le barbare, ils se trouvaient pris sous les mailles et se débattaient comme un poisson. Ils démolissaient eux-mêmes leurs créneaux, des pans de murs s'écroulaient en soulevant une grande poussière, et les catapultes de la terrasse tirant les unes contre les autres, leurs pierres se heurtaient et éclataient en mille morceaux qui faisaient sur les combattants une large pluie. Bientôt les deux foules ne formèrent plus qu'une grosse chaîne de corps humains. Elles débordaient dans les intervalles de la terrasse et, un peu plus lâches aux deux bouts, se roulaient sans avancer perpétuellement. Ils s'étreignaient couchés à plat ventre comme des lutteurs. On s'écrasait. Les femmes penchées sur les créneaux hurlaient. On les tirait par leurs voiles et la blancheur de leurs flancs, tout à coup découverts, brillait entre les bras des nègres y enfonçant des poignards. Des cadavres trop pressés dans la foule ne tombaient pas. Soutenus par les épaules de leurs compagnons, ils allaient quelques minutes tout debout et les yeux fixes. Quelques-uns, les deux tempes traversées par une javeline, balançaient leurs têtes comme des ours. Des bouches ouvertes pour crier restaient béantes, des mains s'envolaient coupées. Il y eut là de grands coups, et dont parlèrent pendant longtemps ceux qui survécurent. Cependant, des flèches jaillissaient du sommet des tours de bois et des tours de pierre. Les tolénones faisaient aller rapidement leurs longues antennes, et comme les barbares avaient saccagé sous les catacombes le vieux cimetière des autochtones, ils lançaient sur les Carthaginois des dalles de tombeaux. Sous le poids des corbeilles trop lourdes, quelquefois les câbles se coupaient, et des masses d'hommes, tous levant les bras, tombaient du haut des airs. Jusqu'au milieu du jour, les vétérans des hoplites s'étaient acharnés contre la Taïnia pour pénétrer dans le port et détruire la flotte. Hamilcar fit allumer sur la toiture de Camon un feu de paille humide, et la fumée les aveuglant, ils se rabattirent à gauche et vinrent augmenter l'horrible cohue qui se poussait dans Malka. Des syntagmes, composés d'hommes robustes, choisis tout exprès, avaient enfoncé trois portes. De hauts barrages, faits avec des planches garnies de clous, les arrêtèrent. Une quatrième céda facilement, ils s'élancèrent par-dessus en courant et roulèrent dans une fosse où l'on avait caché des pièges. À l'angle sud-est, Otarit et ses hommes abattirent le rempart, dont la fissure était bouchée avec des briques. Le terrain par derrière montait, ils le gravirent lestement, mais ils trouvèrent en haut une seconde muraille, composée de pierres et de longues poutres étendues tout à plat et qui alternaient comme les pièces d'un échiquier. C'était une mode gauloise, adaptée par le suffète aux besoins de la situation. Les Gaulois se crurent devant une ville de leur pays. Ils attaquèrent avec mollesse et furent repoussés. Depuis la rue de Camon jusqu'au marché aux herbes, tout le chemin de ronde appartenait maintenant aux barbares, et les Samnites achevaient à coups d'épieux les moribonds. Ou bien, un pied sur le mur, ils contemplaient en bas, sous eux, les ruines fumantes et, au loin, la bataille qui recommençait. Les frondeurs distribués par derrière tiraient toujours, mais à force d'avoir servi, le ressort des frondes arcaniennes était brisé, et plusieurs, comme des pâtres, envoyaient des cailloux avec la main. Les autres lançaient des boules de plomb avec le manche d'un fouet. Zarxas, les épaules couvertes de ses longs cheveux noirs, se portait partout, en bondissant, et entraînait les baléares. Deux panetières étaient suspendues à ses hanches. Il y plongeait continuellement la main gauche, et son bras droit tournoyait comme la roue d'un char. Mato s'était d'abord retenu de combattre, pour mieux commander tous les barbares à la fois. On l'avait vu le long du golfe avec les mercenaires, près de la lagune, avec les numides, sur les bords du lac, entre les nègres, et du fond de la plaine, il poussait les masses de soldats qui arrivaient incessamment contre les lignes de fortification. peu à peu, ils s'étaient rapprochés. L'odeur du sang, le spectacle du carnage et le vacarme des clairons avaient fini par lui faire bondir le cœur. Alors, il était rentré dans sa tente et, jetant sa cuirasse, avait pris sa peau de lion, plus commode pour la bataille. Le mufle s'adaptait sur la tête en bordant le visage d'un cercle de crocs. Les deux pattes antérieures se croisaient sur la poitrine et celles de derrière avançaient leurs ongles jusqu'au bas de ses genoux. Il avait gardé son fort ceinturon où luisait une hache à double tranchant et, avec sa grande épée dans les deux mains, s'était précipité par la brèche impétueusement. Comme un émondeur qui coupe des branches de saule et qui tâche d'en abattre le plus possible afin de gagner plus d'argent, il marchait en fauchant autour de lui les Carthaginois. Ceux qui tentaient de le saisir par les flancs, il les renversait à coups de pommeau. Quand il l'attaquait en face, il les perçait. S'il fuyait, il les fendait. Deux hommes à la fois sautèrent sur son dos, il recula d'un bond contre une porte et les écrasa. Son épée s'abaissait, se relevait. Elle éclata sur l'angle d'un mur, alors il prit sa lourde hache et, par devant, par derrière, il éventrait les Carthaginois comme un troupeau de brebis. Il s'écartait de plus en plus et il arriva tout seul devant la seconde enceinte au bas de l'acropole. Les matériaux lancés du sommet encombraient les marches et débordaient par-dessus la muraille. Mato, au milieu des ruines, se retourna pour appeler ses compagnons. Il aperçut leurs aigrettes disséminées sur la multitude. Elles s'enfonçaient, ils allaient périr, il s'élança vers eux. Alors, la vaste couronne de plumes rouges se resserrant, bientôt ils se rejoignirent et l'entourèrent. Mais des rues latérales, une foule énorme se dégorgeait. Il fut pris aux hanches, soulevé et entraîné jusqu'en dehors du rempart, dans un endroit où la terrasse était haute. Mato cria un commandement. Tous les boucliers se rabattirent sur les casques. Il sauta dessus, pour s'accrocher quelque part afin de rentrer dans Carthage, et tout en brandissant la terrible hache, il courait sur les boucliers, pareil à des vagues de bronze, comme un dieu marin sur les flots, et qui secoue son trident. Cependant, un homme en robe blanche se promenait au bord du rempart, impassible et indifférent à la mort qui l'entourait. Parfois, il étendait sa main droite contre ses yeux pour découvrir quelqu'un. Mato vint à passer sous lui. Tout à coup, ses prunelles flamboyèrent, sa face livide se crispa, et en levant ses deux bras maigres, il lui criait des injures. Mato ne les entendit pas, mais il sentit entrer dans son cœur un regard si cruel et furieux qu'il en poussa un rugissement. Il lança vers lui la longue hache. Des gens se jetèrent sur Shahabarim, et Mato, ne le voyant plus, tomba à la renverse, épuisé. Un craquement épouvantable se rapprochait, mêlé au rythme de voix rauques qui chantaient en cadence. C'était la grande Hélépole, entourée par une foule de soldats. Il la tirait à deux mains, allait avec des cordes et poussait de l'épaule, car le talus montant de la plaine sur la terre, bien qu'il fût extrêmement doux, se trouvait impraticable pour des machines d'un poids prodigieux. Elle avait cependant 8 roues cerclées de fer, et depuis le matin elle avançait ainsi, lentement, pareil à une montagne qui se fût élevée sur une autre. Puis il sortit de sa base un immense bélier. Le long des 3 faces regardant la ville, les portes s'abattirent, et dans l'intérieur apparurent, comme des colonnes de fer, des soldats cuirassés. On en voyait qui grimpaient et descendaient les 2 escaliers traversant ses étages. Quelques-uns attendaient pour s'élancer que les crampons des portes touchassent le mur. Au milieu de la plateforme supérieure, les écheveaux des balistes tournaient et le grand timon de la catapulte s'abaissait. Hamilcar était, à ce moment-là, debout sur le toit de Melkart. Il avait jugé qu'elle devait venir directement vers lui, contre l'endroit de la muraille le plus invulnérable, et à cause de cela même, dégarni de sentinelles. Depuis longtemps déjà, ses esclaves apportaient des outres sur le chemin de ronde, où ils avaient élevé, avec de l'argile, 2 cloisons transversales formant une sorte de bassin. L'eau coulait insensiblement sur la terrasse, et Hamilcar, chose extraordinaire, ne semblait point s'en inquiéter. Mais quand l'Hélépole fut à 30 pas environ, il commanda d'établir des planches par-dessus les rues, entre les maisons, depuis les citernes jusqu'aux remparts, et des gens à la file se passaient de main en main des casques et des amphores qu'ils vidaient continuellement. Les Carthaginois, cependant, s'indignaient de cette eau perdue. Le bélier démolissait la muraille. Tout à coup, une fontaine s'échappa des pierres disjointes. Alors la haute masse d'airain, à 9 étages, et qui contenait et occupait plus de 3 000 soldats, commença doucement à osciller comme un navire. En effet, l'eau pénétrant la terrasse avait devant elle effondré le chemin. Ses roues s'embourbèrent. Au premier étage, entre des rideaux de cuir, la tête de Spendius apparut, soufflant à pleine joue dans un cornet d'ivoire. La grande machine, comme soulevée convulsivement, avança de 10 pas peut-être, mais le terrain de plus en plus s'amollissait, la fange gagnait les essieux, et l'hélépole s'arrêta, en penchant effroyablement d'un seul côté. La catapulte roula jusqu'au bord de la plateforme, et, emportée par la charge de son timon, elle tomba, fracassant sous elle les étages inférieurs. Les soldats, debout sur les portes, glissèrent dans l'abîme, ou bien ils se retenaient à l'extrémité des longues poutres et augmentaient par leur poids l'inclinaison de l'hélépole, qui se démembrait en craquant dans toutes ses jointures. Les autres barbares s'élancèrent pour les secourir. Ils se tassaient en foule compacte. Les Carthaginois descendirent le rempart, et les assaillants par derrière, ils les tuèrent tout à leur aise. Mais les chars garnis de faux accoururent, ils galopaient sur le contour de cette multitude. Elle remonta la muraille, la nuit survint, peu à peu, les barbares se retirèrent. On ne voyait plus sur la plaine qu'une sorte de fourmillement tout noir, depuis le golfe bleuâtre jusqu'à la lagune toute blanche, et le lac, où du sang avait coulé, s'étalait plus loin, comme une grande mare pourpre. La terrasse était maintenant si chargée de cadavres qu'on l'aurait cru construite avec des corps humains. Au milieu se dressaient l'hélépole couverte d'armure, et de temps à autre, des fragments énormes s'en détachaient, comme les pierres d'une pyramide qui s'écroule. On distinguait sur les murailles de larges traînées faites par les ruisseaux de plomb. Une tour de bois abattue, çà et là, brûlait, et les maisons apparaissaient vaguement, comme les gradins d'un amphithéâtre en ruine. De lourdes fumées montaient, en roulant des étincelles qui se perdaient dans le ciel noir. Cependant, les Carthaginois, que la soif dévorait, s'étaient précipités vers les citernes. Ils en rompirent les portes. Une flaque bourbeuse s'étalait au fond. Que devenir à présent? D'ailleurs, les barbares étaient innombrables, et leur fatigue passée, ils recommenceraient. Le peuple, toute la nuit, délibéra par section, au coin des rues. Les uns disaient qu'il fallait renvoyer les femmes, les malades et les vieillards. D'autres proposèrent d'abandonner la ville pour s'établir au loin dans une colonie. Mais les vaisseaux manquaient, et le soleil parut qu'on n'avait rien décidé. On ne se battit point ce jour-là, tous étant trop accablés. Les gens qui donnaient avaient l'air de cadavres. Alors les Carthaginois, en réfléchissant sur la cause de leur désastre, se rappelèrent qu'ils n'avaient point expédié en Phénicie l'offrande annuelle due à Melkarth Tyrien, et une immense terreur les prit. Les dieux, indignés contre la République, allaient sans doute poursuivre leur vengeance. On les considérait comme des maîtres cruels, que l'on apaisait avec des supplications, et qui se laissaient corrompre à force de présents. Tous étaient faibles près de Moloch le dévorateur. L'existence, la chair même des hommes, lui appartenait. Aussi, pour la sauver, les Carthaginois avaient coutume de lui en offrir une portion qui calmait sa fureur. On brûlait les enfants au front ou à la nuque avec des mèches de laine, et cette façon de satisfaire le Baal, rapportant au prêtre beaucoup d'argent, il ne manquait pas de la recommander comme plus facile et plus douce. Mais cette fois, il s'agissait de la République elle-même. Or, tout profit devant être racheté par une perte quelconque, toute transaction se réglant d'après le besoin du plus faible et l'exigence du plus fort, il n'y avait pas de douleur trop considérable pour le dieu, puisqu'il se délectait dans les plus horribles et que l'on était maintenant à sa discrétion. Il fallait donc l'assouvir complètement. Les exemples prouvaient que ce moyen-là contraignait le fléau à disparaître. D'ailleurs, il croyait qu'une immolation par le feu purifierait Carthage. La férocité du peuple en était d'avance alléchée. Puis, le choix devait exclusivement tomber sur les grandes familles. Les anciens s'assemblèrent. La séance fut longue. Hannon y était venu. Comme il ne pouvait plus s'asseoir, il resta couché près de la porte, à demi perdu dans les franges de la haute tapisserie. Et quand le pontife de Moloch leur demanda s'ils consentiraient à livrer leurs enfants, sa voix tout à coup éclata dans l'ombre comme le rugissement d'un génie au fond d'une caverne. Il regrettait, disait-il, de n'avoir pas à en donner de son propre sang. Et il contemplait Hamilcar, en face de lui, à l'autre bout de la salle. Le suffète fut tellement troublé par ce regard qu'il en baissa les yeux. Tous approuvèrent, en opinant de la tête successivement, et d'après les rites, il dut répondre au grand prêtre. « Oui, que cela soit. » Alors les anciens décrétèrent le sacrifice par une périphrase traditionnelle, parce qu'il y a des choses plus gênantes à dire qu'à exécuter. La décision, presque immédiatement, fut connue dans Carthage. Des lamentations retentirent. Partout on entendait les femmes crier. Leurs époux les consolaient ou les invectivaient en leur faisant des remontrances. Mais 3 heures après, une nouvelle plus extraordinaire se répandit. Le suffète avait trouvé des sources au bas de la falaise. On y courut. Des trous creusés dans le sable laissaient voir de l'eau, et déjà quelques-uns, étendus à plat ventre, y buvaient. Hamilcar ne savait pas lui-même si c'était par un conseil des dieux ou le vague souvenir d'une révélation que son père autrefois lui aurait faite. Mais, en quittant les anciens, il était descendu sur la plage, et avec ses esclaves, il s'était mis à fouiller le gravier. Il donna des vêtements, des chaussures et du vin. Il donna tout le reste du blé qu'il gardait chez lui. Il fit même entrer la foule dans son palais, et il ouvrit les cuisines, les magasins et toutes les chambres, celle de Salambo exceptée. Il annonça que 6 000 mercenaires gaulois allaient venir et que le roi de Macédoine envoyait des soldats. Mais dès le second jour, les sources diminuèrent. Le soir du 3e, elles étaient complètement taries. Alors le décret des anciens circula de nouveau sur toutes les lèvres et les prêtres de Moloch commencèrent leur besogne. Des hommes, en robe noire, se présentèrent dans les maisons. Beaucoup d'avance les désertaient sous le prétexte d'une affaire ou d'une friandise qu'ils allaient acheter. Les serviteurs de Moloch survenaient et prenaient les enfants. D'autres les livraient eux-mêmes, stupidement. Puis on les emmenait dans le temple de Tanit, où les prêtresses étaient chargées jusqu'au jour solennel de les amuser et de les nourrir. Ils arrivèrent chez Hamilcar tout à coup et le trouvant dans ses jardins. « Barca, nous venons pour la chose que tu sais, ton fils. » Ils ajoutèrent que des gens l'avaient rencontré un soir de l'autre lune, au milieu des mâts pâles, conduits par un vieillard. Il fut d'abord comme suffoqué, mais bien vite comprenant que toute dénégation serait vaine, Hamilcar s'inclina, et il les introduisit dans la maison de commerce. Des esclaves, accourus d'un signe, en surveillaient les alentours. Il entra dans la chambre de Salambo, tout éperdu. Il saisit d'une main Hannibal, arracha de l'autre la ganse d'un vêtement qui traînait, attacha ses pieds, ses mains, en passa l'extrémité dans la bouche pour lui faire un bâillon, et il le cacha sous le lit de peau de bœuf, en laissant retomber jusqu'à terre une large draperie. Ensuite, il se promena de droite et de gauche, il levait les bras, il tournait sur lui-même, il se mordait les lèvres, puis il resta les prunelles fixes et haletant, comme s'il allait mourir. Mais il frappa 3 fois dans ses mains. Gidenem parut. « Écoute, dit-il. Tu vas prendre parmi les esclaves un enfant mâle de 8 à 9 ans, avec les cheveux noirs et le front bombé. Amène-le, hâte-toi. » Bientôt, Gidenem rentra en présentant un jeune garçon. C'était un pauvre enfant, à la fois maigre et bouffi. Sa peau semblait grisâtre comme l'infect haillon suspendu à ses flancs. Il baissait la tête dans ses épaules et du revers de sa main frottait ses yeux, tout remplis de mouches. Comment pourrait-on jamais le confondre avec Hannibal? Et le temps manquait pour en choisir un autre. Hamilcar regardait Gidenem, il avait envie de l'étrangler. « Va-t'en » cria-t-il. Le maître des esclaves s'enfuit. Donc le malheur qu'il redoutait depuis si longtemps était venu, et il cherchait avec des efforts démesurés s'il n'y avait pas une manière, un moyen d'y échapper. Abdalonim tout à coup parla derrière la porte. On demandait le suffète. Les serviteurs de Moloch s'impatientaient. Hamilcar retint un cri, comme à la brûlure d'un fer rouge, et il recommença de nouveau à parcourir la chambre tel qu'un insensé. Puis il s'affaissa au bord de la balustrade, et les coudes sur ses genoux, il serrait son front dans ses 2 poings fermés. La vasque de porphyre contenait encore un peu d'eau claire pour les ablutions de Salambo. Malgré sa répugnance et tout son orgueil, le suffète y plonge l'enfant, et comme un marchand d'esclaves, il se mit à laver et à le frotter avec des strigiles et la terre rouge. Il prit encore dans les casiers autour de la muraille 2 carrés de pourpre, lui en posa un sur la poitrine, l'autre sur le dos, et il les réunit contre ses clavicules par 2 agrafes de diamants. Il versa un parfum sur sa tête Il passa autour de son cou un collier d'électrum et il le chaussa de sandales à talons de perles, les propres sandales de sa fille. Mais il trépignait de honte et d'irritation. Salammbô, qui s'empressait à le servir, était aussi pâle que lui. L'enfant souriait, ébloui par ses splendeurs, et même s'enhardissant, il commençait à battre des mains et à sauter quand Hamilcar l'entraîna. Il le tenait par le bras, fortement, comme s'il avait eu peur de le perdre, et l'enfant auquel il faisait mal pleurait un peu tout en courant près de lui. À la hauteur de l'ergastule, sous un palmier, une voix s'élevait, une voix lamentable et suppliante. Elle murmurait « Maître, oh maître !» Hamilcar se retourna, et il aperçut à ses côtés un homme d'apparence abjecte, un de ces misérables vivant au hasard dans la maison. « Que veux-tu ? » dit le suffète. L'esclave, qui tremblait horriblement, balbutia « Je suis son père !» Hamilcar marchait toujours. L'autre le suivait, les reins courbés, les jarrets fléchis, la tête en avant. Son visage était convulsé par une angoisse indicible, et les sanglots qu'il retenait l'étouffaient, tant il avait envie tout à la fois de le questionner et de lui crier grâce. Enfin, il osa le toucher d'un doigt, sur le coude, légèrement. « Est-ce que tu vas le... » Il n'eut pas la force d'achever, et Hamilcar s'arrêta, tout ébahi de cette douleur. Il n'avait jamais pensé, tant l'abîme les séparant l'un de l'autre se trouvait immense, qu'il pût y avoir entre eux rien de commun. Cela même lui parut une sorte d'outrage et comme un empiètement sur ses privilèges. Il répondit par un regard plus froid et plus lourd que la hache d'un bourreau. L'esclave, s'évanouissant, tomba dans la poussière à ses pieds. Hamilcar enjamba par-dessus. Les trois hommes en robe noire l'attendaient dans la grande salle, debout contre le disque de pierre. Tout de suite, il déchira ses vêtements et il se roulait sur les dalles en poussant des cris aigus. « Ah, pauvre petit Hannibal ! Oh, mon fils, ma consolation, mon espoir, ma vie ! Tuez-moi aussi, emportez-moi ! Malheur, malheur !» Il se labourait la face avec ses ongles, s'arrachait les cheveux et hurlait comme les pleureuses des funérailles. « Emmenez-le donc, je souffre trop ! Allez-vous-en, tuez-moi comme lui !» Les serviteurs de Moloch s'étonnaient que le grand Hamilcar eût le cœur si faible. Ils en étaient presque attendris. On entendit un bruit de pieds nus, avec un râle saccadé, pareil à la respiration d'une bête féroce qui accourt, et sur le seuil de la troisième galerie, entre les montants d'ivoire, un homme apparut, blême, terrible, les bras écartés. Il s'écria « Mon enfant !» Hamilcar d'un bond s'était jeté sur l'esclave, et en lui couvrant la bouche de ses mains, il criait encore plus haut. « C'est le vieillard qui l'a élevé, il l'appelle mon enfant, il en deviendra fou, assez, assez !» Et chassant par les épaules les trois prêtres et leurs victimes, il sortit avec eux et d'un grand coup de pied referma la porte derrière lui. Hamilcar tendit l'oreille pendant quelques minutes, craignant toujours de les voir revenir. Il songea ensuite à se défaire de l'esclave pour être bien sûr qu'il ne parlerait pas, mais le péril n'était point complètement disparu et cette mort, si les dieux s'en irritaient, pouvait se retourner contre son fils. Alors, changeant d'idée, il lui envoya par Tanaak les meilleures choses des cuisines, un quartier de bouc, des fèves et des conserves de grenades. L'esclave, qui n'avait pas mangé depuis longtemps, se rua dessus, ses larmes tombaient dans les plats. Hamilcar, revenu enfin près de Salammbô, dénoua les cordes d'Hannibal. L'enfant, exaspéré, le mordit à la main jusqu'au sang. Il le repoussa d'une caresse. Pour le faire se tenir paisible, Salammbô voulut l'effrayer avec Lamia, une ogresse de sirène. « Où donc est-elle » demanda-t-il. On lui conta que les brigands allaient venir pour le mettre en prison. Il reprit « Qu'ils viennent, et je les tue !» Hamilcar lui dit alors l'épouvantable vérité. Mais il s'emporta contre son père, prétendant qu'il pouvait bien anéantir tout le peuple, puisqu'il était le maître de Carthage. Enfin, épuisé d'efforts et de colère, il s'endormit d'un sommeil farouche. Il parlait en rêvant, le dos appuyé contre un coussin d'écarlate. Sa tête retombait un peu en arrière, et son petit bras, écarté de son corps, restait tout droit dans une attitude impérative. Quand la nuit fut noire, Hamilcar l'enleva doucement et descendit sans flambeau l'escalier des galères. En passant par la maison de commerce, il prit une couffe de raisin avec une buire d'eau pure, l'enfant se réveilla devant la statue d'Alette, dans le caveau des pierreries, et il souriait comme l'autre, sur le bras de son père, à la lueur des clartés qui l'environnaient. Hamilcar était bien sûr qu'on ne pouvait lui prendre son fils. C'était un endroit impénétrable, communiquant avec le rivage par un souterrain que lui seul connaissait. Et en jetant les yeux alentour, il aspira une large bouffée d'air, puis il le déposa sur un escabeau, près des boucliers d'or. Personne à présent ne le voyait, il n'avait plus rien à observer. Alors il se soulagea. Comme une mère qui retrouve son premier-né perdu, il se jeta sur son fils, il l'étreignait contre sa poitrine, il riait et pleurait à la fois, l'appelait des noms les plus doux, le couvrait de baisers. Le petit Hannibal, effrayé par cette tendresse terrible, se taisait maintenant. Hamilcar s'en revint à pas muets, en tâtant les murs autour de lui, et il arriva dans la grande salle, où la lumière de la lune entrait par une des fentes du dôme. Au milieu, l'esclave, repu, dormait, couché de tout son long sur les pavés de marbre. Il le regarda, et une sorte de pitié l'émut. Du bout de son cothurne, il lui avança un tapis sous la tête, puis il releva les yeux et considéra Tanit, dont le mince croissant brillait dans le ciel, et il se sentit plus fort que les Baals et plein de mépris pour eux. Les dispositions du sacrifice étaient déjà commencées. On abattit dans le temple de Moloch un pan de mur pour en tirer le dieu des reins, sans toucher aux cendres de l'autel. Puis, dès que le soleil se montra, les hiérodoules le poussèrent vers la place de Khamon. Il allait à reculons, en glissant sur des cylindres, ses épaules dépassaient la hauteur des murailles. Du plus loin qu'il l'apercevait, les Carthaginois s'enfuyaient bien vite, car on ne pouvait contempler impunément le Baal que dans l'exercice de sa colère. Une senteur d'aromates se répandit par les rues. Tous les temples à la fois venaient de s'ouvrir. Il en sortit des tabernacles montés sur des chariots ou sur des litières que des pontifes portaient. De gros panaches de plumes se balançaient à leurs angles et des rayons s'échappaient de leurs fêtes aiguës, terminées par des boules de cristal, d'or, d'argent ou de cuivre. C'étaient les Baalim cananéens, dédoublement du Baal suprême, qui retournaient vers leurs principes pour s'humilier devant sa force et s'anéantir devant sa splendeur. Le pavillon de Melkart, en pourpre fine, abritait une flamme de pétrole. Sur celui de Khamon, couleur d'hyacinthe, se dressait un phallus d'ivoire bordé d'un cercle de pierreries. Entre les rideaux des Shmoun, bleus comme l'éther, un python endormi faisait un cercle avec sa queue. Et les dieux patakès, tenus dans les bras de leurs prêtres, semblaient de grands enfants emmaillotés dont les talons frôlaient la terre. Ensuite venaient toutes les formes inférieures de la divinité. Baal Samin, dieu des espaces célestes, Baal Péor, dieu des monts sacrés, Baal Zeboub, dieu de la corruption et ceux des pays voisins et des races congénères, Liarbal de la Libye, l'Adramelec de la Chaldée, le Kijoun des Syriens, Derceto à figure de vierge rampait sur ses nageoires et le cadavre de Tammuz était traîné au milieu d'un catafalque entre des flambeaux et des chevelures. Pour asservir les rois du firmament au soleil et empêcher que leurs influences particulières ne gênassent la sienne, on brandissait au bout de longues perches des étoiles en métal diversement coloriées, et tous s'y trouvaient, depuis le noir Nebo, génie de Mercure, jusqu'au hideux Rahab, qui est la constellation du crocodile. Les abadirs, pierres tombées de la lune, tournaient dans des frondes en fil d'argent. De petits pins, reproduisant le sexe d'une femme, étaient portés sur des corbeilles par les prêtres de Cérès. D'autres amenaient leurs fétiches, leurs amulettes, des idoles oubliées reparurent, et même on avait pris au vaisseau leur symbole mystique, comme si Carthage eût voulu se recueillir tout entière dans une pensée de mort et de désolation. Devant chacun des tabernacles, un homme tenait en équilibre, sur sa tête, un large vase où fumait de l'encens. Des nuages, çà et là, planaient, et l'on distinguait, dans ces grosses vapeurs, les tentures, les pendeloques et les broderies des pavillons sacrés. Ils avançaient lentement, à cause de leur poids énorme. Les cieux des chars quelquefois s'accrochaient dans les rues. Alors les dévots profitaient de l'occasion pour toucher les Baalim avec leurs vêtements, qu'ils gardaient ensuite comme des choses saintes. La statue des reins continuait à s'avancer vers la place de Khamon. Les riches, portant des sceptres à pommes d'émeraude, partirent du fond de Mégara. Les anciens, coiffés de diadèmes, s'étaient assemblés dans Kinisdo, et les maîtres des finances, les gouverneurs des provinces, les marchands, les soldats, les matelots et la horde nombreuse employée aux funérailles tous, avec les insignes de leur magistrature ou les instruments de leur métier, se dirigeaient vers les tabernacles qui descendaient de l'acropole entre les collèges des pontifes. Par déférence pour Moloch, ils s'étaient ornés de leurs joyaux les plus splendides. Des diamants étincelaient sur les vêtements noirs, mais les anneaux trop larges tombaient des mains amaigries, et rien n'était lugubre comme cette foule silencieuse où les pendants d'oreilles battaient contre des faces pâles, où les tiares d'or serraient des fronts crispés par un désespoir atroce. Enfin, le bal arriva juste au milieu de la place. Ces pontifes, avec des treillages, disposèrent une enceinte pour écarter la multitude, et ils restèrent à ses pieds, autour de lui. Les prêtres de Khamon, en robe de laine fauve, s'alignèrent devant leur temple, sous les colonnes du portique. Ceux d'Eshmoun, en manteau de lin, avec des colliers à tête de koukoufa et des tiares pointues, s'établirent sur les marches de l'acropole. Les prêtres de Melkart, en tunique violette, prirent pour eux le côté de l'Occident. Les prêtres des Abadirs, serrés dans des bandes d'étoffe phrygienne, se placèrent à l'Orient, et l'on rangea sur le côté du Midi, avec les nécromanciens tout couverts de tatouages, les hurleurs en manteaux rapiécés, les desservants des patakès et les yidonimes, qui, pour connaître l'avenir, se mettaient dans la bouche un os de mort. Les prêtres de Cérès, habillés de robes bleues, s'étaient arrêtés prudemment dans la rue de Sateb, et psalmodiaient à voix basse, un thesmophorion en dialecte mégarien. De temps en temps, il arrivait des files d'hommes complètement nus, les bras écartés et tous se tenant par les épaules. Ils tiraient des profondeurs de leur poitrine une intonation rauque et caverneuse. Leurs prunelles tendues vers le colosse brillaient dans la poussière et ils se balançaient le corps à intervalles égaux, tous à la fois, comme ébranlés par un seul mouvement. Ils étaient si furieux que pour établir l'ordre, les hiérodoules à coups de bâton les firent se coucher sur le ventre, la face posée contre les treillages des reins. Ce fut alors que du fond de la place, un homme en robe blanche s'avança. Il perça lentement la foule, et l'on reconnut un prêtre de Tanit, le grand prêtre, Shaabarim. Des huées s'élevèrent, car la tyrannie du principe mâle prévalait ce jour-là dans toutes les consciences, et la déesse était même tellement oubliée que l'on n'avait pas remarqué l'absence de ses pontifes. Mais l'ébahissement redoubla quand on l'aperçut ouvrant dans les treillages une des portes destinées à ceux qui entreraient pour offrir les victimes. C'était, croyaient les prêtres de Moloch, un outrage qu'ils venaient faire à leur dieu. Avec de grands gestes, ils essayaient de le repousser. Nourris par les viandes des holocaustes, vêtus de pourpre comme des rois et portant des couronnes à triple étage, ils conspuaient ce pâle eunuque exténué de macération et des rires de colère secouaient sur leur poitrine, leur barbe noire étalée en soleil. Shaabarim, sans répondre, continuait à marcher. Et, traversant pas à pas toute l'enceinte, il arriva sous les jambes du colosse, puis il le toucha des deux côtés en écartant les deux bras, ce qui était une formule solennelle d'adoration. Depuis trop longtemps, la rabette le torturait, et par désespoir ou peut-être à défaut d'un dieu satisfaisant complètement sa pensée, il se déterminait enfin pour celui-là. La foule, épouvantée par cette apostasie, poussa un long murmure. On sentait se rompre le dernier lien qui attachait les âmes à une divinité clémente. Mais Shaabarim, à cause de sa mutilation, ne pouvait participer au culte du Baal. Les hommes en manteau rouge l'exclurent de l'enceinte, puis quand il fut dehors, il tourna autour de tous les collèges, successivement, et le prêtre, désormais sans Dieu, disparut dans la foule. Elle s'écartait à son approche. Cependant, un feu d'aloès, de cèdre et de laurier brûlait entre les jambes du colosse. Ses longues ailes enfonçaient leurs pointes dans la flamme. Les onguents dont il était frotté coulaient comme de la sueur sur ses membres d'airain. Autour de la dalle ronde, où il appuyait ses pieds, les enfants, enveloppés de voiles noires, formaient un cercle immobile, et ses bras, démesurément longs, abaissaient leurs paumes jusqu'à eux, comme pour saisir cette couronne et l'emporter dans le ciel. Les riches, les anciens, les femmes, toute la multitude se tassait derrière les prêtres et sur les terrasses des maisons. Les grandes étoiles peintes ne tournaient plus, les tabernacles étaient posés par terre, et les fumées des encensoirs montaient perpendiculairement, tels que des arbres gigantesques étalant au milieu de l'azur leurs rameaux bleuâtres. Plusieurs s'évanouirent, d'autres devenaient inertes et pétrifiées dans leur extase. Une angoisse infinie pesait sur les poitrines. Les dernières clameurs, une à une, s'éteignaient, et le peuple de Carthage haletait, absorbé dans le désir de sa terreur. Enfin, le grand prêtre de Moloch passa la main gauche sous les voiles des enfants, et il leur arracha du front une mèche de cheveux qu'il jeta sur les flammes. Alors les hommes en manteau rouge entonnèrent l'hymne sacré. « Hommage à toi, soleil, roi des deux zones, créateur qui s'engendre, père et mère, père et fils, dieu et déesse, déesse et dieu !» Et leur voix se perdit dans l'explosion des instruments, sonnant tous à la fois pour étouffer les cris des victimes. Les Chéminites à 8 cordes, les Kinors qui en avaient 10 et les Nébales qui en avaient 12, grinçaient, sifflaient, tonnaient. Des outres énormes hérissées de tuyaux faisaient un clapotement aigu, les tambourins battus à tour de bras retentissaient de coups sourds et rapides, et malgré la fureur des clairons, les salsalims claquaient comme des ailes de sauterelles. Les hiérodoules, avec un long crochet, ouvrirent les 7 compartiments étagés sur le corps du bal. Dans le plus haut, on introduisit de la farine. Dans le second, 2 tourterelles. Dans le troisième, 1 singe. Dans le quatrième, 1 bélier. Dans le cinquième, 1 brebis. Et comme on n'avait pas de bœuf pour le 6e, on y jeta 1 peau tannée prise au sanctuaire. La 7e case restait béante. Avant de rien entreprendre, il était bon d'essayer les bras du dieu. De minces chaînettes partant de ses doigts gagnaient ses épaules et redescendaient par derrière où des hommes, tirant dessus, faisaient monter jusqu'à la hauteur de ses coudes ses 2 mains ouvertes qui, en se rapprochant, arrivaient contre son ventre. Elles remuèrent plusieurs fois de suite, à petits coups saccadés, puis les instruments se turent, le feu ronflait. Les pontifes de Moloch se promenaient sur la grande dalle, en examinant la multitude. Il fallait un sacrifice individuel, une oblation toute volontaire, et qui était considérée comme entraînant les autres. Mais personne, jusqu'à présent, ne se montrait, et les 7 allées conduisant des barrières au colosse étaient complètement vides. Alors, pour encourager le peuple, les prêtres tirèrent de leur ceinture des poinçons, et ils se balafraient le visage. On fit entrer dans l'enceinte les dévoués, étendus sur terre en dehors. On leur jeta un paquet d'horribles ferrailles, et chacun choisit sa torture. Ils se passaient des broches entre les seins, ils se fendaient les joues, ils se mirent des couronnes d'épines sur la tête, puis ils s'enlacèrent par les bras, et, entourant les enfants, ils formaient un autre grand cercle qui se contractait et s'élargissait. Ils arrivaient contre la balustrade, se rejetaient en arrière et recommençaient toujours, attirant à eux la foule par le vertige de ce mouvement tout plein de sang et de cris. Peu à peu, des gens entrèrent jusqu'au fond des allées. Ils lançaient dans la flamme des perles, des vases d'or, des coupes, des flambeaux, toutes leurs richesses. Les offrandes de plus en plus devenaient splendides et multipliées. Enfin, un homme qui chancelait, un homme pâle et hideux de terreur, poussa un enfant. Puis on aperçut entre les mains du colosse une petite masse noire. Elle s'enfonça dans l'ouverture ténébreuse. Les prêtres se penchèrent au bord de la grande dalle et un chant nouveau éclata, célébrant les joies de la mort et les renaissances de l'éternité. Ils montaient lentement, et comme la fumée en s'envolant faisait de hauts tourbillons, ils semblaient de loin disparaître dans un nuage. Pas un ne bougeait. Ils étaient liés aux poignets et aux chevilles, et la sombre draperie les empêchait de rien voir et d'être reconnus. Hamilcar, en manteau rouge comme les prêtres de Moloch, se tenait auprès du bal, debout devant l'orteil de son pied droit. Quand on amena le 14e enfant, tout le monde put s'apercevoir qu'il eut un grand geste d'horreur. Mais bientôt, reprenant son attitude, il croisa ses bras et il regardait par terre. De l'autre côté de la statue, le grand pontife restait immobile comme lui. Baissant sa tête chargée d'une mitre assyrienne, il observait sur sa poitrine la plaque d'or recouverte de pierres fatidiques, et où la flamme se mirant faisait des lueurs irisées. Il pâlissait, éperdu. Hamilcar inclinait son front, et ils étaient tous les deux si près du bûcher que le bas de leur manteau se soulevant, de temps à autre, l'effleurait. Les bras d'airain allaient plus vite, ils ne s'arrêtaient plus. Chaque fois que l'on y posait un enfant, les prêtres de Moloch étendaient la main sur lui pour le charger des crimes du peuple, en vociférant « Ce ne sont pas des hommes, mais des bœufs !» Et la multitude alentour répétait « Des bœufs, des bœufs !» Les dévots criaient « Seigneur, mange !» Et les prêtres de Proserpine, se conformant par la terreur aux besoins de Carthage, marmottaient la formule éleusiaque « Verse la pluie, enfante !» Les victimes, à peine au bord de l'ouverture, disparaissaient comme une goutte d'eau sur une plaque rougie, et une fumée blanche montait dans la grande couleur écarlate. Cependant l'appétit du dieu ne s'apaisait pas. Il en voulait toujours. Afin de lui en fournir davantage, on les empila sur ses mains, avec une grosse chaîne par-dessus qui les retenait. Des dévots, au commencement, avaient voulu les compter pour voir si leur nombre correspondait au jour de l'année solaire, mais on en mit d'autres, et il était impossible de les distinguer dans le mouvement vertigineux des horribles bras. Cela dura longtemps, indéfiniment, jusqu'au soir. Puis les parois intérieures prirent un éclat plus sombre. Alors on aperçut des chairs qui brûlaient. Quelques-uns même croyaient reconnaître des cheveux, des membres, des corps entiers. Le jour tomba. Des nuages s'amoncelèrent au-dessus du bal. Le bûcher, sans flamme à présent, faisait une pyramide de charbon jusqu'à ses genoux. Complètement rouge comme un géant tout couvert de sang, il semblait, avec sa tête qui se renversait, chanceler sous le poids de son ivresse. À mesure que les prêtres se hâtaient, la frénésie du peuple augmentait. Le nombre des victimes diminuant, les uns criaient de les épargner, les autres qu'il en fallait encore. On aurait dit que les murs chargés de monde s'écroulaient sous les hurlements d'épouvante et de volupté mystique. Puis des fidèles arrivèrent dans les allées, traînant leurs enfants qui s'accrochaient à eux, et ils les battaient pour leur faire lâcher prise et les remettre aux hommes rouges. Les joueurs d'instruments quelquefois s'arrêtaient, épuisés. Alors on entendait les cris des mères et le grésillement de la graisse qui tombait sur les charbons. Les buveurs de jusquiam, marchant à quatre pattes, tournaient autour du colosse et rugissaient comme des tigres. Les yidonim vaticinaient, les dévoués chantaient avec leurs lèvres fendues. On avait rompu les grillages, tous voulaient leur part du sacrifice, et les pères dont les enfants étaient morts autrefois jetaient dans le feu leurs effigies, leurs jouets, leurs ossements conservés. Quelques-uns qui avaient des couteaux se précipitèrent sur les autres. On s'entr'égorgea. Avec des vents de bronze, les hiérodoules prirent au bord de la dalle les cendres tombées, et ils les lançaient dans l'air, afin que le sacrifice s'éparpillât sur la ville et jusqu'à la région des étoiles. Ce grand bruit et cette grande lumière avaient attiré les barbares au pied des murs. Se cramponnant pour mieux voir sur les débris de l'hélépole, ils regardaient, béants d'horreur.